Extrait du journal de bord du Covadis. Capitaine Ron Stigman. Année terrestre 2748. Archives numériques consultées pour la dernière fois en l'an 2830. Dans le cadre de ma prise de fonction, j'ai tenu à visiter personnellement l'ensemble du Covadis, à pénétrer dans toutes les salles, à m'enquérir du contenu de tous les containers. Le capitaine Eastcott laisse un grand vide derrière elle, et l'uniforme du capitaine me semblait trop grand pour moi. Il me fallait au moins cette visite pour prendre la mesure de mes nouvelles responsabilités. Le Covadis contient, dans son espace réduit, tout le savoir humain et des échantillons de tous les arts, de toutes les techniques, de tous les accomplissements de l'homme. Il contient aussi un grand nombre de matières premières, d'animaux, de plantes, de cellules en culture. Il y a même une salle des embryons, où se trouvent congelés des embryons de perroquets, d'éléphants et de toutes les bêtes dont l'humanité n'a su préserver que l'ADN. Cette visite complète m'a étourdi et ébloui. Le Covadis est monumental, voué à l'éternel. Chacun des vaisseaux de l'essaimage a été conçu de la même manière, et je pense aujourd'hui au capitaine de l'Achab, de l'Explorer, de l'Hermès, du Ganesh et de l'Ariel. Ressentent-ils tous leur charge avec la même solennité? Où sont-ils en cet instant? Ont-ils fait naufrage dans l'espace? Ont-ils accosté sur une île? Chapitre 4. Pied à terre. Année terrestre 3416. Aucun membre de l'équipage de la sonde n'était jamais monté dans l'annexe qui devait les emmener jusqu'à l'organe, et qui, comme les capsules de sauvetage et les extincteurs d'incendie, leur était toujours apparu comme un élément inerte du décor. Le sourire de l'enseigne de seconde classe tourée s'était quelque peu figé, sans pour autant s'évanouir. L'appréhension du contact avec la Terre était palpable, aussi bien dans le battement de leur sang que dans la lueur inhabituelle de leur regard. L'ingénieur en chef Ido, le major Rodriguez, l'assistant Azuri, la roboticienne Brown, sans distinction d'âge et de sexe, ils étaient tous comme des amoureux tremblants avant leur première fois, la poitrine oppressée, le ventre retourné, la bouche sèche et les yeux presque exorbités par l'attente. Michael se sentait ressuscité, comme si toutes les années qu'il venait de vivre n'avaient compté pour rien, tandis que l'annexe pénétrait violemment dans l'atmosphère et découvrait progressivement le paysage. Il imagina, pendant une seconde secrète et silencieuse, qu'il quittait la sonde pour toujours. L'annexe se posa sans difficulté, dans une clairière non loin de la ville. Il y avait un groupe d'autochtones pour les accueillir, des hommes et des femmes, assez dénudés, dont plusieurs arboraient des tatouages impressionnants. Mais si curieux qu'il fût de leur visage, Michael consacra d'abord quelques instants à regarder la planète. Le paysage forestier éclatait de mille couleurs différentes. Les tons de vert, de brun étaient innombrables. La lumière naturelle pleuvait, irrégulière, et les mousses, les feuilles mortes frissonnaient de rayons et d'ombres. Où qu'on porta les yeux, c'était la même profusion débordante de formes et de mouvements. Lorsqu'ils aperçurent un oiseau, et qu'ils entendirent son cri sauvage, Michael, la gorge serrée, lutta contre les larmes, et vit que Touré, elle, pleurait sans retenue. Elle se mit même à sangloter, saisie d'un vertige où se mêlaient des rires, et Michael laissa les autres descendre afin de lui permettre de se reprendre. « Ça va aller ?» lui demanda-t-il. De ses yeux mouillés, elle sourit. « Ça n'a jamais été aussi bien, Major. » Il prit le temps de lui presser l'épaule avec douceur, comme pour la rappeler à une réalité sociale qu'elle avait oubliée. Puis il la fit descendre devant lui et quitta l'annexe en dernier. Foudre n'en croyait pas ses yeux. C'était une chose en effet que de savoir que le vaisseau s'était échoué sur l'organe plusieurs siècles auparavant, Et c'en était une autre que de voir et d'entendre, ici et maintenant, une machine volante se poser sur le sol. Elle se sentit un peu déçue par l'aspect de l'annexe, qui ne ressemblait au vaisseau couleur de nuit, ni par sa taille, ni par sa forme, et fut heurtée par le vacarme insupportable du moteur. Mais lorsque le silence et l'immobilité revinrent dans la clairière, lorsque les premiers hommes descendirent de l'appareil, elle put difficilement contenir l'expression de sa curiosité passionnée. Les autres clés, à côté d'elle, se tenaient de manière beaucoup plus hiératique, et elle tâcha de s'en inspirer. Pluie avait la tête haute, et parvenait à regarder dans la direction de l'annexe sans le moindre battement de cils. Ambre enveloppait les intrus d'un regard légèrement supérieur et ironique. Fleuve et Avril souriaient avec placidité. Foudre, malgré son envie de courir pour mieux voir, parvint à grand-peine à se tenir en place. Elle avait oublié ses douleurs aux reins et aux talons, concentrant toute son énergie dans ses yeux qui tentaient de percer la distance. Le premier choc fut de constater que, contrairement aux habitants de l'organe qui avaient mélangé leur sang depuis 20 générations, les membres de l'équipage étaient entre eux extrêmement dissemblables. Foudre, qui avait passé beaucoup de temps dans la bibliothèque du vaisseau, reconnut les races, aujourd'hui enfouies et invisibles dans sa chair mate. Le second choc fut de les voir chanceler. Ces hommes si puissants qu'ils parvenaient à survivre indéfiniment dans les airs, comme des oiseaux marins, ces hommes qui avaient rompu toute attache avec leur sol nourricier, affranchis et libres, avançaient comme des veaux venant de naître, leurs jambes grêles flageolant sous la pression écrasante de leur corps. Elle ressentit la piqûre d'une compassion profonde devant ces êtres déséquilibrés qui soutenaient leur propre poids comme un fardeau et dont les yeux clignaient comme ceux des animaux nocturnes réveillés en pleine lumière. Elle vit, derrière leur apparence maladive, toutes les absences et tous les manques de leur existence atrophiée. La joie de la femme noire et le regard émerveillé du dernier homme de l'équipage lui firent de la peine. Sans heurter la vue par sa laideur, cette clairière n'avait rien de spécial, et il fallait bien des privations pour en arriver à pleurer de joie en la découvrant. Il fallait être un naufragé. Elle fixa longuement son regard sur l'homme qui était sorti en soutenant la femme noire. Il avait une peau très pâle, que perçait l'ombre d'une barbe très noire, et les yeux clairs. Il lui apparut ainsi comme le seul qui se préoccupa des autres. Ses yeux clairs étaient peut-être particulièrement sensibles à la lumière, car c'était lui qui plissait instinctivement les yeux pour se protéger du soleil. Sa démarche était un peu chancelante, mais il paraissait soutenu par une force intérieure. Il regardait autour de lui avec l'expression de celui qui ne veut rien perdre d'une expérience unique. Tandis que les autres s'avançaient, il ne put s'empêcher de se pencher vers le sol et il eut un geste qui émut Foudre. Il caressa doucement la terre de l'organe, de sa paume ouverte, avec un infini respect. Après quelques pas, la femme noire tomba à genoux et se mit à sangloter convulsivement, et l'homme aux yeux clairs la releva et lui dit des paroles que Foudre ne pouvait entendre à cette distance, mais dont elle admira l'efficacité, car la femme, à partir de là, se tint plus droite et aligna son pas sur celui de ses camarades. Foudre, en les voyant s'approcher, recevait les impressions diverses de leur allure. Ils étaient affreusement maigres, avec les os saillants sous la raideur de leur costume. Ils étaient disciplinés, et leur corps, même dans ces circonstances extrêmes, avait un pli profondément marqué, comme celui d'un tissu impossible à froisser. Ils avaient une façon de marcher, de tenir les bras, la tête, les yeux, à une certaine hauteur, qui avait dû leur être imprimée depuis des années. Ils regardaient maintenant les clés avec solennité. Quand ils furent à quelques mètres, les autres s'écartèrent pour laisser passer l'homme aux yeux clairs, qui semblait avoir été désigné pour communiquer. L'homme aux yeux clairs prononça un discours, ce qui étonna beaucoup les clés, qui échangèrent quelques regards, mais l'écoutèrent poliment. C'était un discours de paix et de respect mutuel entre les peuples, qui évoquait des ancêtres communs et le berceau de l'humanité. C'est du moins ce que Foudre réussit à comprendre, car il y avait des différences notables entre leurs langues. Beaucoup de mots étaient rendus presque méconnaissables par une prononciation différente, et d'autres n'existaient tout simplement pas dans la langue de l'organe. Sa belle voix grave agissait sur Foudre comme une musique étrange, aux harmonies inconnues. Pluie s'avança lorsqu'elle jugea que l'homme avait fini de parler. « Je m'appelle Pluie, » dit-elle. « J'ai rencontré le chef de votre vaisseau, et je suis responsable de mon clan, comme tous ceux qui m'accompagnent. Comment vous appelle-t-on ? » « Je suis le major Michael Strauss, » dit l'homme. « Que signifie ton nom ? » demanda Fleuve, avec intérêt. « Nous ne sommes pas familiers de ce mot. » « Mon nom ne signifie rien de particulier, » dit Michael, « juste des syllabes. » Fleuve hocha la tête, en signe de commisération, comme si cette absence de sens était une sorte de handicap. « Michael Strauss, » reprit Pluie, « nous n'avons pas le même usage de la langue que vous. Nous ne pratiquons pas la parole solitaire. Pour nous, la parole est libre, spontanée et se partage. Nous n'avons pas préparé de discours à votre intention. » Le major sourit et hocha la tête. « J'espère ne pas vous avoir trop ennuyé avec le mien, » dit-il. « Non, » dit vivement Foudre en souriant, « pas du tout. Ton usage de la langue est très intéressant. » Ils échangèrent un regard, un sourire, et Michael se tourna pour présenter les autres. « Comment retenir des syllabes arbitraires ?» souffla Avril entre ses dents. « Je ne me souviendrai jamais de leur nom. » Après les salutations, Pluie reprit la parole. « Votre chef m'a fait part de votre volonté de visiter notre planète, et nous nous proposons de vous accompagner jusqu'à la ville, où nous vous servirons à boire et à manger. Nous pourrons ensuite réfléchir ensemble à l'organisation de votre séjour parmi nous. » Ils se mirent en marche, le long d'un sentier forestier. Les clés marchaient devant et parlaient entre eux de manière volubile. Ils se retournaient de temps en temps pour attendre leurs hôtes, dont ils comprenaient qu'ils avaient surestimé les capacités physiques. L'ingénieur en chef Ido suait à grosses gouttes, et Isla Brown était si essoufflée qu'elle devait s'arrêter toutes les 5 minutes. Les autres s'en sortaient mieux et commençaient à s'habituer à la gravité de l'organe, mais leur uniforme n'était pas adapté à la température. Michael Strauss marchait à nouveau en dernier et profitait de cette place pour caresser du regard tout ce qu'il voyait, les baies sauvages, les fleurs, les lézards courant sur les troncs. Il fermait parfois les yeux, et Foudre, qui se retournait de temps en temps pour les regarder, devinait que c'était pour mieux se laisser aller aux autres sensations. Il écoutait probablement le bruissement des feuilles et le chant des insectes invisibles, il emplissait ses narines de l'odeur de l'humus et des fruits pourrissants. Il n'avait jusqu'à présent pas voulu dévisager les autochtones, de peur de paraître impoli. Mais à présent qu'il s'était habitué à la caresse du soleil et à l'explosion de la vie tout autour de lui, il se risqua à promener sur eux de longs regards avides. La plus vieille femme, celle qui s'appelait Pluie, lui inspirait une crainte révérentielle, peut-être à cause de ses nombreux tatouages faciaux. Il se demandait ce que symbolisaient ces marques corporelles. Il penchait pour des marques identitaires reliant les individus à leur tribu. Comme la plus jeune femme ne portait qu'un seul tatouage facial, une sorte de liane enroulée sur la tempe gauche, il se demanda s'il ne s'agissait pas plutôt d'un rituel initiatique. Les tatouages et les scarifications démontraient dans certaines peuplades la puissance de celui qui les portait. Cette jeune femme s'appelait Foudre, et tout en elle le fascinait. Son corps jeune et svelte, à la peau d'un brun pâle, si alerte comparée au sien. Le dessin parfait de ses lèvres, de ses narines, de ses sourcils ou de la ligne d'implantation de ses cheveux. Elle était si radieuse qu'il se sentait lui-même presque infirme en sa présence et dut baisser les yeux pour échapper à un vertige. Cela faisait si longtemps qu'il voyait toujours les mêmes visages dans la sonde, des visages pâles et soucieux comme le sien, vieillis prématurément aux radiations cosmiques. Les deux hommes se trouvaient dans la force de l'âge et la dernière femme, Ambre, pouvait avoir la trentaine. Ils portaient tous des vêtements fluides dans un tissu semblable à la soie, et ornée de petits éclats de pierres brillants. « Comment vous sentez-vous, Touré ?» Michel Touré s'était reprise et s'adaptait plus facilement que les autres au rythme de la marche. « J'ai l'impression de me trouver dans un rêve. Vous avez remarqué comme ils sont beaux ?»« Oui, depuis tout à l'heure j'ai l'impression d'être une sorte de monstre malade à côté d'eux. »« Mais c'est ce que nous sommes, non ? Des monstres malades. » Le sentier forestier les amena bientôt en bordure de la ville, et à partir de cet instant, le major Strauss cessa totalement de parler et de réfléchir pour se consacrer à tout ce qui se déroulait comme par magie autour de lui. Cela avait été très impressionnant de voir des animaux sauvages et des végétaux à profusion, mais cela ne se comparait pas avec le sentiment de pénétrer dans une organisation sociale, riche et complexe, avec ses codes mystérieux, son histoire, sa géographie urbaine, les lois tacites de son commerce. C'était la première fois qu'il se déplaçait ainsi, dans une colonie formée à partir du grand essaimage, et cela lui faisait l'effet d'avoir sauté à pieds joints dans les images colorées d'un livre d'histoire, et de se trouver environné de 1000 détails nouveaux qui n'avaient jamais été représentés ou même imaginés par les historiens. Il accomplissait ce miraculeux bond dans le temps, ou peut-être dans la fiction, avec une incrédulité qui grandissait à chaque pas. La ville était bâtie en pierre de plusieurs couleurs, certaines roses, d'autres blanches ou grises, et les maisons les plus ouvragées comportaient des lignes décoratives ou parfois des damiers. L'architecture en était simple, mais élégante. Les bâtiments comportaient le plus souvent un seul étage et s'ouvraient largement sur l'extérieur, par des fenêtres et des balcons, pour la plupart en bois. Des escaliers extérieurs agrémentaient les façades, la plupart en bois sculpté, ainsi que des passerelles qui de loin en loin traversaient les ruelles au niveau du premier étage. Il y avait aussi des arbres le long des voies pavées. Michael nota que l'ingénieur Ido prenait des photos, assez discrètement. Son attention ne se portait pas, comme celle de Michael, sur l'esthétique de l'ensemble, mais sur des détails techniques. En suivant le regard de Ido, Michael constata que la ville était dotée d'un réseau d'eau, de fontaines, et même de ce qui ressemblait à des égouts. Les animaux avaient manifestement droit de cité comme les humains, et n'étaient pas chassés. Il y avait des rongeurs à profusion, qui grimpaient dans les arbres et sautaient d'assez grandes distances pour chaparder de la nourriture oubliée, ou peut-être déposée à leur intention. Des chats leur donnaient parfois la chasse et rentraient se poster sur les seuils, presque tous largement ouverts. Les autochtones les dévisageaient avec curiosité, certains avec hostilité, mais aucun ne leur adressa la parole. Ils vaquaient à leurs occupations, qui portant des charges, qui se déplaçant, qui tenant commerce. Leur façon de parler était chantante, agréable à l'oreille, avec un accent inimitable. Une impression générale, non pas d'oisiveté, mais d'absence de hâte se dégageait de cette brève traversée. Les autochtones ne marchaient pas vite, bavardaient beaucoup. On entendait aussi des chants fredonnés et des rires dont Michael Strauss n'était pas sûr qu'ils ne fussent pas l'objet. Enfin, les clés les firent entrer dans un vaste bâtiment polychrome dont les murs intérieurs étaient ornés de fresques et dans la cour duquel poussaient d'étranges arbres aux feuilles rousses. Une sorte de minuscule amphithéâtre de bois était installé là, permettant à des groupes restreints de discuter. Les clés prirent place et invitèrent les membres de la sonde à les imiter, puis des autochtones apportèrent des boissons et des fruits, ainsi que d'appétissants gâteaux. Le parfum de la nourriture fit fermer les yeux à Michael Strauss. « Que mangez-vous dans votre vaisseau ?» demanda l'homme nommé Fleuve. « Nous avons un élevage de poules et de vaches qui nous donne en abondance des œufs et du lait, » répondit le major Rodriguez. « Nous faisons pousser quelques plantations dans la serre, » et pour l'ordinaire, nous nous contentons de nourriture lyophilisée ou chimique. Lyophilisée, répéta Fleuve, des aliments que nous avons fait sécher pour les conserver plus longtemps. Fleuve hocha la tête d'un air poli. Michael fut frappé par l'air de supériorité de ces cinq personnages. Ils étaient loin de correspondre à ce qu'il avait imaginé d'une population autochtone naïve et admirative devant les féeries de leur technologie. Il semblait s'en enquérir par politesse plutôt que par intérêt. Il y eut un incident désagréable lorsque l'ingénieur Ido fut pris de vomissements après avoir consommé une boisson. « Notre corps est devenu bien fragile, comme vous pouvez le voir, » s'excusa Isla Brown, qui respirait un peu mieux depuis qu'il se trouvait dans un bâtiment. « J'avoue que j'ai moi-même été prise de vertige quand je me suis retrouvée ainsi à l'air libre, avec tout le ciel au-dessus de ma tête. » « Les habitants de la caverne n'ont pas toujours envie d'en sortir, » dit Foudre aimablement. Le major Strauss releva cette phrase, surpris. « Faites-vous référence au mythe de Platon ?»« Oui. Vous êtes comme ces hommes enfermés dans une caverne, mangeant des simulacres de nourriture et regardant le monde à travers des écrans qui ne sont que des simulacres du réel. Mais vous avez voulu sortir et voir le soleil en face, n'est-ce pas ?» Isla Brown allait rétorquer quelque chose lorsque le major Strauss, fort de sa désignation par le capitaine pour mener les entretiens diplomatiques, lui enjoignit de se taire par le regard. « Nous sommes très curieux de votre mode de vie, » dit le major, « et aussi de votre planète. »« Pourquoi vous intéressez-vous à l'organe ?» demanda Pluie, un peu abruptement. « Eh bien, répondit Michael, nous avons pour habitude de cartographier tous les corps célestes et de réunir un maximum d'informations sur les portions de l'univers que nous traversons. » « À quoi servent ces informations ?» demanda Avril. « Nous les envoyons à l'Union. Cela accroît la connaissance de l'univers connu. » « Que voulez-vous savoir sur l'organe ?»« Nous allons procéder à des relevés, des prélèvements, des analyses. Nous ne ferons aucun dégât. » « Je note, Major Michael Strauss, que vous parlez au futur, sans nous demander notre permission. » « Cela vous poserait-il un problème, madame ?»« Je ne puis répondre pour la communauté, dit Pluie. Je ne suis pas propriétaire de l'organe, pas plus que de l'opinion de mes semblables. » « Nous avons cependant déjà discuté de ce point au Conseil des Clés, dit Ambre un peu plus aimablement. « Tant que vous procédez à vos analyses loin de la ville, nous n'avons pas le pouvoir de vous en empêcher. » « Y a-t-il d'autres villes ?» demanda le Major Rodriguez. « Pas à notre connaissance, dit Foudre. « N'avez-vous jamais essayé de visiter la planète ?»« Pourquoi faire ?» demanda Foudre. « Nous n'avons pas besoin d'aller plus loin ?» Nous avons ici tout ce qui peut constituer le sens et le soutien de notre existence. N'avez-vous pas la curiosité de l'ailleurs ? Demanda l'assistant Azoulay. Vous projetez sur nous vos propres sentiments, qui nous sont étrangers, dit Pluie. C'est vous qui avez la curiosité de l'ailleurs, vous et nos ancêtres qui se sont échoués sur l'organe. Mais nous ne partageons pas votre fureur de conquête. En disant ces mots, Pluie porta un regard appuyé sur les armes que Rodriguez et Azoulay portaient à la ceinture. « À quoi ces armes sont-elles destinées, messieurs ?» reprit Pluie d'un ton sévère. Michael la regarda intensément. Son visage bleuté par les lignes entrecroisées des tatouages demeurait impassible. « Ces armes font partie de notre uniforme réglementaire, s'excusa-t-il. Nous allons les déposer immédiatement si cela vous gêne. » Le visage bleu se radoucit un peu. « Qu'est-ce qui vous fait croire que nous vous laisserions vous en servir ?» demanda-t-elle. « Vous pouvez garder vos jouets de destruction s'ils vous rassurent. Nous ne sommes pas armés de cette manière. » Foudre la regarda d'un air ennuyé. « Si vous le souhaitez, proposa-t-elle à Michael, je m'offre de vous initier à nos coutumes et à notre façon de penser puisque vous avez dit que vous étiez curieux de notre mode de vie. Combien de temps comptez-vous rester sur l'organe ?» « Quelques jours, si vous avez la bonté de nous accueillir, je serai très honoré de cette initiation, » répondit-il. « Les ruines du vaisseau sont-elles encore accessibles ?» demanda l'ingénieur Ido. « Non, » dit Pluie. « Pourtant, » continua Ido, « nous avons vu sa carcasse gigantesque depuis notre position en orbite et... nous avons décidé en Conseil des Clés que vous n'y auriez pas accès. » Ido regarda Strauss qui lui fit signe de se taire. « En gage de notre bonne foi, nous pouvons vous offrir un certain nombre d'objets ou de machines. » « Le Conseil des Clés a conclu que nous ne profiterions pas de votre technologie. Nous vous remercions. » L'ingénieur paraissait suffoqué de surprise. « Nous pourrions augmenter considérablement votre productivité agricole, » dit-il avec animation. « Vous aider à extraire la pierre des carrières, vous laisser une radio pour communiquer avec nous à distance. » « Oui, vous pourriez tout cela. » Mais nous avons décidé de ne pas exploiter cette possibilité, répondit Pluie avec lenteur, comme si elle s'adressait à un enfant obstiné. Notre équipe technique peut-elle se mettre à l'œuvre en s'éloignant de la ville ? Demanda Michael pour changer de sujet. Quant à moi et à l'ingénieur Ido, nous serons très heureux de nous en remettre à vous, dit-il obligeamment en s'adressant à Foudre. Alors nous nous éloignerons de la ville également, dit-elle. Ma demeure se trouve dans la forêt. Michael parut un peu surpris. « Comme vous voudrez, » dit-il. L'ingénieur ouvrit la bouche, puis la referma à plusieurs reprises, et l'homme nommé Fleuve ne put s'empêcher de rire. « Ingénieur Ido, vous exerceriez-vous à ressembler à une carpe ?» dit-il. Les clés sourirent, ainsi que la seconde enseigne tourée. L'ingénieur Ido, comme moi-même, espérait simplement visiter la ville, dit Michael d'un ton embarrassé. « Depuis le grand essaimage, nous n'avons eu que très peu de nouvelles des colonies humaines qui se sont formées ça et là. À ma connaissance, la dernière en date a été découverte il y a plus de 80 ans, et nous n'en avons comptabilisé que 6. Votre civilisation est comme un bébé dont nous aurions accouché des années auparavant et dont nous sommes passionnément curieux. » Le major Michael Strauss possède l'art de l'éloquence, dit Foudre. Je vous ferai visiter la ville avant de vous conduire dans ma demeure, et vous aussi, ingénieur Ido. Veuillez pardonner notre humour, quelque peu déplacé. Pluie consulta les autres clés du regard. Puis, avec une unisson assez remarquable, ils se levèrent. Nous raccompagnerons ceux d'entre vous qui retournent à leur petit vaisseau. Il est inutile de vous déranger, risqua Isla Brown. Nous retrouverons le chemin par nous-mêmes. Pluie la toisa, de toute sa hauteur, et sa bouche tatouée émit un petit claquement de la langue, dont Michael ne comprit pas exactement le sens. Il supposa cependant qu'il s'agissait d'un geste d'agacement. Il se sépara de ses coéquipiers avec une pointe d'inquiétude. Il lui semblait qu'Isla Brown risquait de voir ses crises d'agoraphobie augmenter avec un séjour prolongé. « Vous allez tenir le coup, Brown ? Plusieurs jours à l'air libre ?»« J'y emportais des cachets, Major, et puis je vais me concentrer sur mes robots. »« Touré, vous maîtrisez le flux lacrymal ?» Il savait que sa phrase allait creuser le sourire et les fossettes de la jeune enseigne, et il lui sourit en retour. « Ne vous sauvez pas dans la nature au moment de remonter dans l'annexe, prescrivit-il. « J'essaierai, Major. » Le Major Rodriguez se pencha vers lui. « J'espère que vous ne prenez pas de risques inconsidérés, Strauss. Ces autochtones sont peut-être plus hostiles qu'il n'y paraît. »« Nous verrons bien, Major. Nous restons en contact. » Azuri lui fit un salut rapide, et il se retrouva seul avec Ido. Le visage luisant de sueur, l'ingénieur en chef paraissait fondre sur place par la seule force de sa colère intérieure. « Vous vous rendez compte, Major, que nous n'aurons même pas accès au vaisseau. Vous imaginez tous les vestiges qu'on aurait pu trouver là-bas. »« Je n'ai pas dit mon dernier mot, chef. Vous devez vous montrer patient. La personne qui nous accueille est loin d'être la plus intraitable. »« Major, vous avez entendu comme moi. La vieille tatouée a utilisé une tournure bizarre. Elle a dit « Nous ne sommes pas armés de cette manière. » Oui, je l'ai relevé aussi. Mais vous devez prendre sur vous. Nous sommes invités chez ces gens. Nous avons pour mission de nouer des relations amicales et d'en apprendre le plus possible. Cela exclut que nous nous montrions impolis ou susceptibles. L'ingénieur Ido soupira bruyamment. Je vous laisse parler à partir de maintenant. Le major lui tapota amicalement dans le dos avant de se hâter. L'équipage de la sonde s'était attardé pour parler, mais les clés les avaient devancés et paraissaient impatientés. Au premier carrefour, Fleuve, Avril et Ambre prirent avec l'équipe scientifique la direction de l'annexe, et Foudre, avec grâce, invita Strauss et Ido à marcher à sa hauteur dans une autre direction. Michael cherchait des yeux la femme nommée Pluie, mais sa haute stature et son visage recouvert de cygne n'étaient plus visibles nulle part.